Bonjour à tous et bienvenue dans les projets du web. Les projets du web, c'est le podcast qui parle des différents projets qu'on peut trouver sur internet. Et vous avez pas eu d'épisode depuis un certain temps. Effectivement, on était un petit peu en pause et on a un peu revu aussi notre ligne éditoriale, comme on dit. Et maintenant, on va faire des épisodes plus courts et on va faire que des interviews. Et donc pour ça, j'ai toujours mon copain Nico. Salut Nico.
Bonsoir, ça faisait longtemps, mais je suis de retour.
De retour. Et aujourd'hui, nos premiers invités pour cette nouvelle formule des projets du web, c'est un collectif composé de passionnés d'animation, c'est Fatfish Animation. Et aujourd'hui, nous avons, qui donc, sur les quatre, parce que vous êtes que trois sur quatre là aujourd'hui.
Ouais, alors oui. Du coup, il y a moi, il y a Yann.
Donc moi aussi, Alexandre, enchanté.
Salut.
Moi, Antoine. Salut.
Et Antoine, c'est ça?
Ouais.
D'accord. Et donc, il manque Fabien.
Voilà, Fabien, en ce moment, a une très très bonne excuse. Il est actuellement en Chine, à Shenzhen, en fait, pour assister à
un festival de court-métrage.
De court-métrage, où justement, il concourt à ce festival avec son court-métrage Destiny.
D'accord.
C'est pas une excuse, c'est pas valable.
Voilà. Donc, non, il n'est pas caché plus loin dans la pièce parce qu'il est très
timide. Il est trop timide, en fait.
Très très bonne excuse.
En même temps, vu votre vidéo de présentation, je pense pas que vous soyez spécialement timide. Enfin, vous en donnez pas l'impression, en tout cas.
Merci, c'est un bon compliment.
On essaye.
Donc, pour le petit rappel, vous avez 4 campagnes de crowdfunding sur Ulule. Donc, chacun avec votre série d'animation.
Ouais, c'est bien ça.
Donc, est-ce que vous pouvez dire chacun à votre tour le nom de votre série d'animation?
Du coup, je vais commencer. Donc, moi, mon projet s'appelle Les Norms. Voilà pour répondre à la question du nom.
Après, on détaillera peut-être un peu plus en détail chaque série d'animation. Donc toi, ouais, c'est Les Norms. Après, on a Cosmotourist, touriste avec...
Alexandre, donc c'est moi. Donc je suis auteur et réalisateur sur le projet Cosmotourist.
Et le dernier, c'est Les Lunes d'Aldrin.
Ah, ouais, Les Lunes d'Aldrin.
Et donc, est-ce que celui qui manque, qui est parti en Chine avec son excuse
voilà,
de merde,
ouais.
c'est lui qui fait Bar à Babord.
Donc c'est Fabien qui développe le projet Bar à Babord.
D'accord. Bon, on va revenir un peu sur ces 4 séries d'animation un peu plus loin. On va essayer déjà de commencer pour savoir qui vous êtes et d'où vous venez, parce que je crois que vous venez tous du même endroit.
Oui, pas de manière géographique, mais sinon oui.
De manière de passion, oui, on vient tous du même.
On s'est rencontrés tous les quatre sur les bancs de l'école.
Je pense qu'on peut la citer. On s'est tous les quatre rencontrés au sein de Bellecour École d'Art, qui est une école basée à Lyon. On a tous les quatre suivi donc un bachelor en infographie animation 3D. Mmh. Bachelor pour c'est l'équivalent international d'une licence.
D'accord.
À travers ces études qu'on s'est rencontrés.
D'accord. Et vous avez intégré cette école direct après le bac?
Ouais, je crois. Pour Fabien, je sais pas.
Pour Fabien, c'était différent. Fabien, il a fait Fabien qui a l'opportunité d'être de nationalité suisse. il a effectué, je crois, une année en plus avant d'intégrer directement Bellecour.
D'accord. Et concernant Bellecour, pour les gens qui potentiellement nous écoutent et qui voudraient faire de l'animation, donc c'est accessible directement depuis après le bac. Et est-ce qu'il faut faire un book spécifiquement, ou est-ce qu'il faut avoir déjà des grosses compétences pour pouvoir l'intégrer?
Alors non, pas forcément de grosses compétences. Donc Bellecour, c'est une école qui peut s'intégrer donc après le bac, donne une formation supérieure post-bac. Mmh. Elle est accessible sur entretien et sur dossier. Quand on postule dans l'école, c'est sûr que avoir un dossier déjà artistique un petit peu fourni aide beaucoup pour réussir l'entretien et être intégré dans l'école. Sinon, une des vraiment,
je pense principalement, c'est vraiment la passion et la motivation.
Ouais. C'est la passion, l'envie de travailler dans ce domaine, et puis surtout avoir la possibilité de suivre des cours. Avec des intervenants de grande qualité, si je puis dire.
Il faut quand même savoir un minimum dessiner. Quelqu'un comme moi qui fait des bonhommes en fil de fer avant le maximum de mes capacités ne sera à mon avis pas accepté.
Ouais, oui, il faut...
Après, c'est vrai qu'ils sont assez ouverts, c'est-à-dire que
vraiment dans l'optique en fait d'offrir pour la en tout cas pour la première année du bachelor, vraiment de former sur vraiment toute la partie dessin. Énormément de cours en plus dans cette matière-là. Voilà. Il y a à peu près, je crois, 6 ou 7 matières de dessin différents.
Il y a du storyboard, du dessin anatomique, du dessin de modèle vivant, il y a ce qu'on appelle des cours où on développe tout ce qui est l'univers graphique en dessinant des personnages et des décors. Enfin, il y a, la pratique du dessin est assez développée et assez, on va dire, est assez enseignée à l'école. Est pas mal parce qu'à côté on a aussi des enseignements qui sont assez techniques, comme par exemple enseignement autour de la 3D en elle-même et puis des FX et justement ce que les quatre nous on a bien apprécié dans la partie bachelor, il y avait ce juste milieu entre formation artistique et formation technique.
Ok, et donc du coup je suppose que vous avez quand même plusieurs projets de fin d'année ou projet à faire.
Si je peux juste intervenir un petit rapidement, on nous signale beaucoup de problèmes dans la chatroom.
D'accord.
Chez les intervenants, les voix apparemment, quand ils parlent, il y a beaucoup de mots qui sautent et la voix qui part.
Ouais, on vient juste de retoucher vite fait le micro justement pour corriger ça. Donc,
Et on fait ce qu'on peut.
Voilà.
Oui, excusez-nous, la chatroom, c'est une grande première pour nous. On règle tout ça bien.
Désolé d'intervenir avec un problème technique, mais bon, je préférais le faire au début avant de se lancer.
Ouais.
J'adore le commentaire. Coupez vos prompts, les gars, ça saute.
Ouais, donc, où est-ce que j'en étais Ce que je demandais, c'était pendant les différentes les quelques années que vous faites là-bas, vous avez différents projets à mener. Je suppose des projets de fin d'année ou des projets même en cours d'année.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et j'ai vu un projet, genre je suppose que c'est un projet que vous avez fait dans le cadre de l'école, le glouglouton avec le poisson à la fête de lumière à Lyon.
Ouais, c'est bien ça. Ça a été notre premier projet en commun. Quatre oui. Ensemble. Ça a été fait justement pendant notre cursus de master en première année.
Oui.
Et donc voilà, on a eu l'occasion de travailler pour la fête des Lumières de Lyon, projection monumentale.
Ah mais c'est, je l'ai montré à ma fille, donc elle a 2 ans et demi, et elle était morte de rire devant le poisson qui attrapait ce poisson.
Ouais. Ah bah c'est bien sympa. On avait pu assister du coup au live durant la soirée et c'est vrai que on était bien contents parce que c'était plutôt bien accueilli par rapport à ce qu'il peut y avoir d'habitude à la fête des Lumières, ou en tout cas aux autres projections qu'il y avait à côté de nous. C'était plutôt bien accueilli. C'est vrai qu'habituellement
les réactions du public sont assez réservées, assez mitigées. Et là, on a eu la chance de profiter de la réaction super enjouée de tous les passants qui s'arrêtaient pour voir notre projection. Et c'était une très très bonne expérience pour nous, en tout cas.
J'ai une question par rapport au format, en fait, parce que je l'ai aussi montré à ma fille qui a adoré également. Mais je me demandais si c'était voulu, cette espèce de fin couloir avec les grandes bandes noires sur les côtés.
Alors,
c'était une contrainte technique par rapport à la diffusion, ou c'était un effet voulu?
Ouais. Oui, en fait, c'est étant donné que c'était projeté sur un monument, on a eu les contraintes techniques qui nous ont été données, et il fallait qu'on puisse caler le court métrage, enfin l'animation, en gros, par rapport à la forme du bâtiment, quoi.
Ouais, d'accord.
Nous, c'était fait un peu au couloir, un peu.
En fait, c'est le découpage quand tu mets, par exemple, quand tu affiches la vidéo en plein écran, le découpage noir qui est autour de la vidéo, en fait, dessine exactement le contour de la façade du bâtiment sur lequel la vidéo a été projetée, en fait.
Ouais,
donc
ouais.
On a dû, en fait, une des contraintes qu'on a eues en pré-production, c'est que la société avec qui on a travaillé, qui s'est chargée de la projection technique, nous a passé une sorte de template, donc de modèle du bâtiment, de la façade du bâtiment à suivre pour que nous, on puisse se caler parfaitement dessus pour remplir uniquement la façade du bâtiment avec de la vidéo, avec notre court-métrage. Donc c'est pour ça que ça donne un format assez atypique et que justement on a à chaque fois
des commentaires,
plein de questions là-dessus. Tiens, vous avez un format assez atypique, mais justement c'est...
Je n'avais pas vu que ça avait été diffusé sur un bâtiment, donc c'est vrai quand je l'ai diffusé sur ma télé, je me demandais un peu...
Oui, il faut le savoir, quoi. C'est vrai que c'est pas commun.
C'est vrai que moi j'ai regardé que la vidéo de projection live et du coup on voit le bâtiment. C'est vrai qu'on comprend pourquoi est-ce que c'est comme ça en fait.
Ouais. Moi pas, j'ai pris les vidéos et j'ai balancé sur ma télé les courts-métrages et ensuite de l'autre.
Oui. Fallait retourner la télé pour que...
Ouais. C'est vrai que le format de Glouglouton, c'est un peu l'anti 16/9 au possible, quoi.
Ouais.
Ah, elle est vraiment très très sympa comme vidéo. Donc du
merci
coup,
merci beaucoup.
C'était votre premier projet tous les quatre. C'est ça qui vous a donné envie de vous mettre ensemble pour continuer après l'école? Vous vous êtes dit, tiens, on bosse bien quand même, on fait du bon taf ensemble.
Ouais, c'était un truc qui nous intéressait bien. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les quatre des profils techniques qui complémentaires. Il y avait Antoine et Fabien qui étaient plus sur de l'anime. Moi, j'étais plus sur tout ce qu'on appelle le caractère direction technique de l'animation des personnages. Et Alexandre, pas mal sur le lighting et le compositing, en fait, toutes les étapes. On arrivait à nous quatre à avoir l'ensemble des étapes d'une production d'animation 3D. Et du coup, c'était assez agréable de travailler comme ça. Je pense que c'est aussi ça le prémisse du collectif.
D'accord. Mais par contre, maintenant, vous êtes chacun avec votre projet. Toi, c'est ça que j'ai trouvé bizarre, c'est que vous êtes chacun avec votre série d'anime, mais vous bossez tous les uns pour les autres séries, ou est-ce que c'est vrai, vous êtes vraiment sur, en gros, chef de projet des Norms, chef de projet des Barababord, des Lunes d'Aldrin, ou pas du tout? Ou vous bossez vraiment, vous mixez un peu les équipes?
Alors en fait les rôles sont plutôt bien définis. C'est vraiment chaque personne chapeaute et dirige un projet. Comme on est on va dire toute la journée on travaille dans la même salle et on se voit assez souvent à côté.
Ouais, ouais.
Ça n'empêche pas qu'on fait énormément de retours, de conseils. La chance qu'on a, c'est que, bah, comme je disais, on travaille dans la même salle, on peut instantanément se faire des retours, se demander des conseils et des avis sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, certaines écritures d'épisodes ou pour certaines idées qu'on essaye de développer, on peut directement tester en se les racontant si ça nous fait rire, si on trouve ça bien. Et au contraire, justement... Chacun développe son propre projet, mais on essaye quand même d'utiliser notre force de groupe pour pousser le travail le plus loin possible. Et effectivement, on reste, pour répondre très simplement à la question, on reste plutôt segmenté, quoi, sur là-dessus.
Ouais, voilà. Mais après, on se fait pas d'ombre entre nous, c'est-à-dire qu'on a on a réussi à avoir des projets où on n'avait pas du tout au niveau des séries télé, pas la même cible et pas forcément le même genre,
le même format aussi.
Ah oui, vous n'avez ni le même format, ni le même style, ni le même. Ça, c'est clair que tout est différent.
Ouais, voilà, c'est ça. C'était aussi le but, c'était de avoir des projets qui se mangent, on va dire, des parts d'audience, si on peut dire ça. Enfin, on se fait pas d'ombre entre nous, quoi.
Mais justement, vous n'avez quand même pas peur en faisant quatre projets distincts plutôt qu'un seul Ulule pour le
collectif,
comment,
crowdfunding,
tout le studio, le collectif, voilà. Vous n'avez pas peur un peu que ça détaille sur certains projets ou que le fait que soit que certains puissent financer que d'autres parce que les gens n'ont pas possibilité peut-être de mettre sur plusieurs et vont se concentrer sur ceux qui leur plaît plus. Ou peut-être que ça, je sais pas, que ça fera un peu de l'ombre ou des jalousies entre vous, que sais-je.
Alors on a mis les choses au clair entre nous dès le début, ouais. Donc là-dessus, non. C'est vrai que c'était un peu, on va dire, un pari parce que
une expérience.
Parce que c'était quelque chose...
Nous sommes des aventuriers.
Oui, parce que vous auriez très bien pu dire, on fait un seul et même financement participatif pour... le studio.
Ouais, c'est ça. Alors le souci après qu'on avait, c'était de comment arriver à rendre ça compréhensible et clair pour des personnes qui ne connaissent pas les projets. Et un petit peu de préparer comme ça des pages où on avait les quatre projets qui étaient réunis sur Ulule. Et ça marchait pas, c'était pas clair pour le spectateur qui voulait se renseigner sur un projet en particulier. Voilà, je pense que c'est aussi dans un but de clarté qu'on a fait quatre pages distinctes et regroupées sous l'identité du collectif.
D'accord.
Vous avez pu le faire à des moments différents, peut-être. Enfin non, vous avez un but.
C'était aussi ça qui nous avait permis de faire quatre campagnes simultanées. C'est qu'on avait tous les quatre les mêmes besoins. Savoir rémunérer les
compositeurs, les compositeurs et les comédiens professionnels qui ont la chance de travailler sur nos projets. Non, mais avec qui on a surtout la chance de travailler. Franchement, on a des gars super. On a vraiment la chance d'avoir chacun un compositeur vraiment très 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 bon, très très doué. Pour ma part, pour mon projet, j'ai pu travailler aussi avec des comédiens pros pour les voix, dont Nicolas Gabion, qui a un rôle dans la série Kaamelott. Enfin, vraiment, c'était une super chance. Et par rapport à ça, et aussi par rapport à nos objectifs en termes de délai, on a souhaité lancer les quatre projets en même temps. C'est-à-dire qu'on va tous participer donc au festival international du film d'animation d'Annecy, donc dans sa partie business qui s'appelle le MIFA, pour essayer de vendre et démarcher avec le projet. Et comme on souhaitait tous assister à cet événement, lancer les quatre campagnes avec par exemple quelques jours ou même quelques semaines de décalage, en termes de timing, ça aurait pas été possible pour nous, en fait.
Si on avait lancé les campagnes une par une, enfin les unes après les autres, on se serait marché dessus plus qu'autre chose. Et après, on n'empêche pas du tout les gens de participer aux quatre projets, parce que à savoir que du coup, s'ils participent pour les quatre, trois ou pour deux, ou même un seul, dans tous les cas, ils ont des contreparties spéciales, en fait.
D'accord.
Dans tous les cas, on essaye de faire en sorte que les gens qui contribuent soient avantagés, quoi.
Ok. Je veux pas foutre le bordel, hein. Mais Yann, toi, c'est fini, c'est bon, t'as eu les 102%.
Ouais, c'est ça, ouais, j'ai eu la chance d'avoir...
La chance.
Alors, les autres, vous êtes à touche-touche, quoi, entre 70 et 80%.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Voilà, exactement, on peut vous donner les stats en temps réel. Mm.
Merci Internet.
Alors sur les norms, le projet est à 82% de financement. Cosmo Tourist, le projet est à 74% de l'objectif. Et sur Barababor, le projet est un petit peu derrière, est à 73%. Et du coup, il nous reste 9 jours pour atteindre chacun notre objectif, qui est d'avoir la possibilité d'avoir 1 500 € en termes de financement. Et on croise les doigts pour que ça puisse fonctionner comme Yann qui a pu concrétiser la campagne avec Lina Green.
Voilà.
Et sur le chat, on nous dit comment foutre la merde.
Eh ben, franchement, concrètement, contrairement à ce qu'on peut penser, ça se passe. Non, ça se passe vraiment très bien. Et puis, notre objectif en lançant les quatre campagnes en même temps, c'était d'utiliser la force de groupe, d'utiliser vraiment des valeurs de solidarité et d'entraide, et de se tirer dans les pattes. Donc vraiment.
Vous saviez que de toute façon, il y avait un risque. Qu'une ou l'autre ne marche pas et qu'il y a peut-être un ou l'autre qui est plus de succès.
On en avait discuté aussi avec Ulu directement, et on savait qu'il y avait un risque que, statistiquement, il n'y ait qu'une campagne ou deux campagnes maximum qui puissent réussir. Donc voilà, après on s'est mis d'accord, il y aura sans doute, on fera des c'est-à-dire que si une campagne arrive à avoir plus d'argent, puisse aider à financer les autres. Voilà, on va voir, là ça va être la dernière ligne droite, ça va être la dernière semaine, on va pouvoir voir un petit peu comment ça va évoluer pour voir un peu comment on peut faire pour que les quatre campagnes puissent réagir, puissent réussir plutôt.
On vous le souhaite, de toute façon, généralement, de ce que j'avais entendu de retour de gens qui ont fait des Ulule, c'est au début, et puis à la fin, généralement, ça prend...
Ouais, c'est ça, ouais. Vous nous avez dit pareil, c'est une sorte de courbe en U, où les trois premiers jours et les trois derniers jours, ça va être les jours les plus décisifs pour la campagne. Donc, on va voir ça.
Voilà, rien n'est perdu au dernier moment.
Et du coup, je me permets de réagir, je vois deux questions très intéressantes dans le chat room.
J'allais te la poser.
Justement, je crois que j'allais la poser aussi.
Ouais. Alors, c'est la première question, c'est, alors je sais pas si je vais bien prononcer, c'est C2L, K2L. Question idiote, vous êtes allé voir Ulule ou c'est Ulule qui est venu vous chercher? Non, c'est nous qui avons choisi de démarrer les campagnes sur le site Ulule. On avait déjà l'opportunité d'assister à une conférence en direct de Ulule. Ulule qui se déplaçait il y a quelques mois dans toutes les grandes villes de France pour un petit peu présenter leur structure, comment ils fonctionnaient, et on a trouvé ça plutôt intéressant. Et ce qui est très, très très cool de leur part, c'est qu'ils ont un bon suivi en fait avant de lancer des projets sur leur plateforme et pendant même le déroulement des projets. Ils sont vraiment là pour nous accompagner et avec nous ils ont été vraiment assez top. Et la deuxième question qui est une très bonne question de Musica. Je sais pas si j'ai raté l'info, mais pour un court métrage comme le Glouglouton, combien de temps ça vous prend en moyenne? Combien de temps ça vous avait pris en moyenne?
Je crois qu'on avait regardé un petit peu si on avait cumulé. Alors le projet il s'est étalé sur un mois au total, mais on n'était pas à plein temps dessus.
On a eu en fait une deadline de fin de projet qui était fixe, qui pouvait pas du tout bouger, donc on pouvait pas se permettre de prendre du retard. Comme le projet était diffusé pendant le festival, pendant la fête des Lumières de Lyon, en fait, ils allaient pas déplacer la fête des Lumières d'une semaine parce qu'on était à la bourre.
Voilà.
Pour vous, si, quand même.
donc du coup, je sais pas.
14 jours, je crois. Si on avait travaillé
non-stop, à temps complet,
ça aurait fait, je pense, 14 jours de production.
Ouais.
Rassurez-vous, Annecy va déplacer son festival aussi.
Parfait.
Alors, à certains moments, on aimerait bien.
Ouais, on aimerait bien.
Justement, vous n'avez pas. Parce que vous parlez de délai ici, mais je voyais sur votre campagne que vous vouliez que les séries soient prêtes pour le festival d'Annecy. Il se tiendra du 9 au 14 juin, voilà, j'ai les dates.
Ouais, c'est bien ça.
Mais la campagne Ulule se termine le
23 mai, ouais.
24 mai.
24 mai, ouais, c'est-à-dire elle se termine vendredi prochain.
23 même. Ça fait pas un peu peur d'être trop court ou vous êtes déjà bien prêt et c'est juste pour du peaufinage et de la rémunération?
En fait, la campagne Ulule va nous permettre d'accomplir en fait deux objectifs. Le premier objectif, c'est de rémunérer les compositeurs et les comédiens qui ont fait le son et les voix pour les teasers et bandes annonces des projets. Et en fait, les teasers et les bandes annonces, faut absolument qu'on puisse les terminer pour le festival. Et une partie de la rémunération, enfin une partie des fonds collectés grâce à Ulule, va nous permettre de payer très directement le travail des compositeurs et des comédiens. Et
la deuxième but de cette campagne, d'avoir aussi pour toute la communication autour de nos projets de série, donc différents supports de com, ça peut être très bien l'hébergement du site web, tout comme l'impression des flyers, et notamment des dossiers de vente et des bibles littéraires, pour pouvoir les présenter nos projets auprès de diffuseurs. Avant d'avoir un peu l'argent, voilà, avant Annecy, pour avoir le temps d'imprimer et tout ça.
Mais sinon, les séries en elles-mêmes sont déjà bien avancées. Elles seront largement terminées.
Ce qu'on s'est fixé, donc après il y aura pas la série en entière, hein, c'est ça.
Il y aura pas, par exemple, on n'aura pas 52 épisodes de 5 minutes, ni pour Yann 26 épisodes, mais en fait l'objectif pour le festival, présenter un concept, une idée avec des personnages, des situations et des exemples d'épisodes qui fonctionnent. Pour que les potentiels producteurs et diffuseurs qu'on va rencontrer puissent regarder un projet qui soit abouti et qui soit viable, c'est-à-dire qu'ils puissent que ces projets respectent les contraintes du secteur audiovisuel, les demandes en tant que développement d'histoire, en tant que narration, et aussi qu'on puisse leur donner un bon aperçu de ce que visuellement ça va donner.
D'accord. Et du coup, bah, comme on va peut-être quand même parler de vos projets, chacun de vous va y passer, et vous allez pouvoir décrire un peu ce que c'est votre série d'animation, et justement, où est-ce que vous en êtes? Par exemple, est-ce que vous avez déjà 2-3 épisodes de près, ou est-ce que vous avez déjà une bonne partie d'épisodes, ou est-ce que vous pouvez, on va commencer par Cosmo Touriste?
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la série, et puis de quoi ça va parler, et où est-ce que t'en es?
Alors, je vais commencer par qu'est-ce qui m'a donné l'idée de Cosmo Touriste. En fait, ce qui me passionne avant tout, c'est les voyages. Je suis un grand passionné de documentaires qu'on peut voir à la télé qui présentent les beautés de la planète et de la Terre. Je suis un passionné aussi des grands reportages photos où on peut voir vraiment des parties complètement exotiques, complètement fantastiques du monde qui se dévoilent. C'est avec ces principes de base que je me suis dit pourquoi pas proposer une série à une cible plutôt large, composée de jeunes enfants et aussi d'adultes, en essayant de leur faire découvrir des lieux extraordinaires et des endroits magnifiques de la planète Terre. Et je me suis dit, j'adore aussi toutes les séries qui ont un petit peu bercé la fin de mon enfance et ma préadolescence, par exemple les Zinzins de l'espace ou d'autres séries qui passaient dans ce genre. Je me suis dit, pourquoi pas intégrer au fait de découvrir des lieux fantastiques du monde, du fun, de l'action, de l'aventure, pour avoir un résultat final vachement avec beaucoup de peps, avec beaucoup d'action et un truc assez frais et punchy. Et c'est pour ça que je suis parti sur une idée très simple. Je me suis demandé, est-ce si des extraterrestres arrivaient sur la Terre, et non pas pour nous envahir, mais pour faire visiter notre planète à des voyageurs venus de toute la galaxie. Donc en fait, ces extraterrestres, ils se révèlent être une agence de tour opérateur galactique. Donc c'est des sortes de voyagistes de l'espace qui amènent à chacun de leurs voyages sur la Terre une nouvelle cargaison de touristes pour leur faire découvrir des lieux formidables et leur faire vivre une activité assez fun. Et justement, ces extraterrestres, pour à chaque fois proposer des lieux et des activités complètement délirantes et de plus en plus fantastiques à leurs clients, ils vont avoir besoin d'un guide pour les orienter sur la planète. Et ça va être le rôle du héros de la série, qui s'appelle Zach, qui est un jeune garçon, qui va travailler avec ces extraterrestres qui s'occupent du tour opérateur.
Tu fais bosser quand même un gabin de 11 ans, quoi. C'est un peu
bizarre. Bah oui. Mais justement, mutuellement, ils auront besoin l'un de l'autre, et Zach va profiter de cette énorme opportunité qui s'offre à lui pour se sortir de son quotidien vraiment ennuyant et de profiter de cette occasion pour découvrir le monde et vivre à chaque épisode des activités complètement délirantes. Par exemple, ils vont pouvoir aller en Australie. Où justement dans le ciel australien, à un certain moment de l'année, il y a des nuages qui se forment, mais ils se forment d'une manière particulière qui fait que ça fait des rouleaux de nuages qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, et du coup Zach va emmener les extraterrestres surfer dessus. Ils vont pouvoir aller en Afrique, aussi d'autres activités complètement fun dans les grandes steppes remplies d'animaux. Ils vont pouvoir aller en Antarctique aussi, où ils ont entendu parler de mystérieux pingouins volants qui apparemment volent pour se déplacer. Et à chaque fois, ils vont découvrir un endroit de la Terre complètement unique et une activité assez fun, quoi.
Et est-ce que c'est tu as pour but de vraiment te documenter, de présenter des choses
complètement, oui.
Vraiment sérieuse et un peu à la manière d'Il était une fois, de vérifier un petit peu, enfin, même si c'est parfois discutable chez eux, mais
alors,
vérifier ce que tu présentes et d'essayer d'être éducatif
Complètement, ouais. On a une base, en fait, une base qui est très documentée, c'est-à-dire que chaque épisode se base sur un lieu qui est existant du monde et que tu peux retrouver vraiment dans la vraie vie. Par exemple, si tu décides demain de partir en voyage vers le lieu que tu as vu dans le dernier épisode de Cosmo Touriste, ce lieu va exister. Par contre, on apporte le fun, l'action et l'aventure avec une histoire qui, elle, va être imaginée qui va être fictive. Mais chaque lieu existe réellement, on a une base qui est documentée, et on va expliquer, voilà, toujours de manière complètement fun, en évitant un ton scolaire et didactique, pourquoi ces lieux sont uniques sur la Terre. J'aimerais vraiment éviter de tomber dans des tons très, très scolaires, comme par exemple « C'est pas sorcier » ou justement, tu citais « Il était une fois » ou enfin, j'adorais moi cette série, mais à certains moments, forcément tu te disais « Ah ouais, bon, là, c'est un peu... voilà quoi, ça avance pas quoi. »
D'accord, bah écoute, merci. On va passer à la deuxième. On va parler.
Oui, le bus magique. Excuse-moi, c'est parce que Clem le cite sur le chat, mais oui, c'est comme le bus magique, voilà. C'est ça que je cherchais.
Très beau commentaire. Merci à Clem. Si je me permets aussi, j'ai une deuxième question toujours de C2L, K2L. Faudrait me dire précisément la prononciation. Alors, série à suivre ou épisode gag. Donc en fait, on appelle chaque épisode est bouclé, c'est-à-dire que chaque épisode peut se voir, on va dire, dans le désordre. Et à chaque fois, effectivement, il y aura un gag et une situation à suivre par épisode.
D'accord. Voilà. T'as un fil rouge sur tous les épisodes, quoi. Sur les 52 épisodes de prévu, c'est ça ?
Exactement, ouais. 52 épisodes de 7 minutes chacun, avec à chaque épisode, voilà, un fil rouge à suivre au sein de l'épisode.
Ok. Bah, merci beaucoup. On va passer les Norms.
Ouais,
c'est
oui,
sitcom pour ado adulte de 21 épisodes de 21 minutes.
Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est le format. Et ben oui, du coup, en fait, c'est le au niveau du genre. Donc c'est du sitcom. Du coup, les principales références par rapport au projet, ça reste American Dad, Les Simpsons, des séries comme ça qu'on connaît.
South Park.
Ouais. Alors South Park, c'est aussi une de mes références. Mais ce que j'aimerais apporter dans la série des Normes, c'est quand même un humour un peu moins trash, parce que South Park, c'est assez particulier, quoi. Même si j'adore.
Il n'y aura pas de son d'anal.
South Park. Comment ?
Il n'y aura pas de son d'anal.
Non, c'est pas. Alors non, il y a de la coke, des trucs comme ça, de la drogue et tout, mais ça parle pas de sonde anale, non, pas
d'accord.
Encore.
La sonde anale, quoi.
On verra.
Le mystère de la sonde anale.
Alors pour le coup, c'est donc c'est un sitcom. Le truc, c'est que contrairement à American Dad et aux Simpsons, où on s'intéresse généralement à un père de famille ou aux parents, cette fois on va s'intéresser à un jeune en fait qui a 25 ans. Il s'appelle Gordon et c'est un adolescent bien paumé. Et le sitcom est là avant tout pour parler des problèmes de ma génération, donc on va dire des gens qui ont entre 20 et 30 ans, quoi. Et ce mec, donc Gordon, qui est un peu un loser, un tanguy, va devoir apprendre à passer à la vie adulte, enfin. Et il va devoir arrêter d'être un ado un peu paumé, quoi. Et puis devenir quelqu'un, quoi, en gros, quoi. Devenir quelqu'un de mature.
D'accord. Il a trop la classe avec son petit cartable.
Voilà, donc oui, et voilà, et en fait je vois pas les commentaires entre la coque et la sonde, mon cœur balance. Ok, j'aime bien ce genre de commentaires. Ouais, et puis du coup le pari en fait avec ce projet, c'est que j'ai longuement cherché, mais j'ai pas trop trouvé de sitcom en animation 3D qui existait déjà. Et le pari, c'est aussi de montrer que l'animation 3D, finalement, c'est pas forcément quelque chose qui est destiné que aux petits, que aux enfants. C'est pas forcément que du Pixar ou du Disney, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense personnellement que si les Simpsons ou si American Dad, ça existe aujourd'hui, il y a un public et c'est que c'est justifié, en fait.
Tu t'espères maintenir autant la longueur que les séries qu'on cite ici.
Comment ?
J'espère maintenir autant la longueur que les séries qu'on cite, que les Simpsons ou South Park par exemple, avec 20 saisons.
Alors je suis désolé hein, pour ceux qui suivent South Park, je vais pas spoiler, mais il faut savoir que la série va s'arrêter. Non, en fait, le but, c'est que je sais déjà que la série va se finir, je sais pas encore quel épisode va terminer la série. Mais le but, c'est d'avoir quand même une série qui se termine, parce que personnellement, je trouve qu'une série, c'est un peu comme un film. Il doit y avoir un début et une fin, quoi. Et à force de faire de la longueur et je ne sais pas combien de saisons,
Lost,
au bout d'un moment, on finit par se perdre. Donc voilà.
Ok.
Tu as cassé les espoirs de tous les fans de South Park ce soir. Merci.
Tu vas te faire lapider, je crois, Antoine.
Non, non. Ouais, enfin.
Non, mais les fans sont au courant.
Ouais, bah du coup, voilà ce que je peux dire. Après, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein.
Chat aussi, on a le chat qui est ouvert aussi. Donc si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas.
Ouais, ouais, ouais.
Le chat est là pour ça, tout à fait.
Et bah en attendant, on va passer sur les lunes d'Aldrin.
Ouais.
Donc, tu peux nous faire le petit pitch de l'histoire et puis nous dire un peu bah, sous quelle forme et où t'en es aussi.
Alors du coup, moi, les lunes d'Aldrin, c'est un projet qui a un petit peu de... Moi, c'est sur un projet de série télé feuilletonnante. Un peu à la manière comme on pouvait trouver dans les années 80 et puis actuellement aussi, c'est les mystérieuses cités d'or. Là, voilà, des séries feuilletonnantes où chaque épisode, on n'a qu'une hâte, c'est enfin pouvoir voir l'épisode d'après pour continuer de suivre les aventures de nos héros. Donc du coup voilà.
Aldrin fait le buzz. Merci Randab.
Ça, c'est Aldrin, la prochaine série qui va faire le buzz.
Oh.
On espère en tout cas. On sait pas, on espère. Non oui, et puis bah oui, bah, forcément entre Aldrin et puis Buzz Aldrin, il y a voilà, c'est rien se fait assez naturellement. Et du coup voilà, alors les lunes d'Aldrin, bah voilà, enfin à la base, le concept c'était tout simplement ça, c'était de proposer une série qui remet un peu au goût du jour ces séries-là feuilletonnantes qui actuellement ont un petit peu disparu du paysage.
D'accord. Et donc le pitch de l'histoire.
Du coup alors bah, les lunes d'Aldrin, donc c'est le l'histoire se passe sur la lune d'Aurore qui croule sous le maléfique tyran Kaor qui possède une mystérieuse technologie. Donc sur cette lune vit un jeune garçon Aldrin qui va devoir partir à l'aventure à la recherche de son père disparu et va vivre de grandes aventures et va notamment devoir découvrir le lien qui existe entre sa lune d'origine, donc la lune où se déroule l'histoire, et la deuxième lune où est originaire la fameuse technologie. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident à résumer simplement.
C'est un peu un mélange entre toutes les séries de type aventure et science-fiction qu'on a pu avoir dans les années 80 avec une touche un peu plus et moderne en fait.
Ouais, c'est ça.
La quête du père qui vient de jaillir les conquérants de la lumière, le type d'aventure de la cité d'or, qui peut trouver des ponts un peu partout.
Ouais, c'est ça carrément.
Mais même quand on voit le design par exemple de Bardas, le marchand, ouais. Ça fait clairement penser aux cités d'or. Enfin, le design est. C'est trop ça.
C'est vrai qu'il y a une grande influence sur.
C'est pour ça que t'as réussi à financer direct.
À financer, c'est que j'ai parlé, j'ai réussi. Les fans des mystérieuses cités d'or se sont reconnus.
Ils se sont dit la saison 2, elle était pourrie. Il faut qu'on trouve autre chose.
Alors on va prendre une autre et puis.
Ok, bah merci bien. Est-ce que il y en a un de vous qui peut parler de Barababor à la place de.
Eh ben, on peut s'en charger les trois.
On peut s'en charger les trois. Pas les trois en même temps, mais oui.
Allez-y.
Alors, Barababor, donc c'est un projet qui est porté par Fabien Weibel. Et c'est un projet aussi d'animation 3D, tout public, qui comporte des épisodes assez courts qui vont entre 1 et 3 minutes. Barababor, en fait, c'est l'histoire de conquistadors, à ne pas confondre avec des pirates, qui sont perdus dans un archipel à la recherche du moindre caillou à coloniser.
Ça m'a fait penser à la toute petite anime qu'il y a sur le projet Ulule. Sur le projet Ulule, ça m'a fait penser au lapin crétin. Ils ont l'air aussi débiles.
Exactement. C'était une des références de Fabien, les lapins crétins et les mignons du film Moi, moche et méchant.
Ouais, clairement.
Ouais, en fait, ils sont assez tous débiles. enfin, profondément débile, et puis il y en a quelques-uns qui ressortent un peu du lot. Par exemple, il y a le capitaine qui est quelqu'un d'assez obtus et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de toujours coloniser le moindre caillou, la moindre île. Malheureusement, à chaque fois, ils n'y arrivent pas pour une raison complètement absurde, mais toujours délirante.
C'est surtout par leur débilité qu'ils n'y arrivent pas.
Ouais, c'est surtout à cause de ça, voilà. C'est un format très très court, par contre, c'est avec des épisodes qui vont de 1 minute jusqu'à 3 minutes, quoi.
D'accord. Ok.
C'est vraiment ici du one shot, du gag one shot, sans fil rouge, sans fil.
Ouais, c'est ça. Un épisode, une situation.
Ah, donc utiliser l'humour absurde avec des situations et des endroits un petit peu anachroniques pour illustrer à chaque fois des gags et une bonne utilisation aussi de l'humour de type burlesque et slapstick. Un petit peu, ouais, comme on le disait, à la manière des mignons, des lapins crétins, où à chaque fois on est sûr que ça va se finir mal, on sait pas comment ça va se finir mal, mais c'est sûr ça va nous faire rire et on va passer un moment assez, assez fun, quoi.
D'accord, bah merci pour leur passage en revue des quatre séries. J'avais une question concernant donc si vous trouvez des producteurs, des diffuseurs, vous pensez chacun aller vers où? Plus la télé, plus le web, plus je sais pas, le câble, machin. Est-ce que vous avez des idées de où est-ce que vous pourriez être diffusé potentiellement? Vous avez peut-être déjà des touches.
Sur HBO
non, juste avant Game of Thrones, après Game of Thrones.
Pour l'instant, l'objectif c'est la télévision. Par contre, on n'exclut pas du tout la possibilité d'avoir quelque chose sur Internet, parce que ça fait déjà quelques années que sur Internet c'est en train de très bien bouger de ce point de vue. Ah, mais garde pour objectif la télé, quoi.
D'accord. Et donc vous avez
d'autres.
Je sais pas s'il y avait déjà des touches de
producteurs, des. Actuellement, non, parce que on a encore peu. On n'en a pas eu l'occasion encore de rencontrer justement différents producteurs ou studios de production qui seraient en contact avec leurs producteurs à eux. Mm-hmm. Non, c'est vrai que ça va être le grand bain, on va dire. Ça va vraiment être Annecy où on va pouvoir vraiment présenter le projet, montrer, on va dire, au grand public, tant qu'il n'était pas tant qu'on n'avait pas pu écrire justement toute la bible littéraire du projet. Maintenant que c'est chose faite, on va pouvoir se lancer et parler un peu plus des projets.
Moi j'ai une petite question par rapport à ce que j'ai vu sur le LUL. Il y a deux de vos projets qui vont être adaptés, vous comptez adapter en jeu vidéo. Est-ce que vous avez des envies que votre studio devienne un peu cross-média, un peu à la Ankama?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'aime les bonnes questions.
Merci. On essaye.
Alors, en fait, donc justement, les deux projets qui ont chacun aussi une version en jeu vidéo dans les tuyaux, donc c'est le projet que je développe, Cosmotouriste, ainsi que le projet Barababor. Le jeu vidéo qu'on va développer avec l'univers de nos projets, en fait, s'inscrit dans la démarche transmédia nos projets. C'est-à-dire que en jouant aux jeux vidéo, on va pouvoir découvrir une nouvelle facette de l'univers et on va pouvoir vivre un pan de l'histoire qui est différent et qui vient compléter l'histoire qu'on va découvrir via la série télé, en fait.
C'est clairement du transmédia, quoi.
Exactement.
On est clairement comme le fait essayer de développer pour le moment Noob, qui est assez connu sur Internet. Et aussi développer son univers sur plusieurs médias différents.
Exactement. Et justement, pour le moment, la logique cross-média, on l'a pas, on va dire. Dans un premier temps, on souhaite plutôt se focaliser vraiment sur le transmédia, pouvoir à chaque fois raconter une histoire sur un média différent. Et après, pourquoi pas la logique cross-média, la développer en proposant des petits jeux sur le navigateur ou même carrément des jeux jouables sur PC ou tablette qui reprennent vers nos projets. Mais vraiment, dans un premier temps, c'est Et les projets qui a à côté, par exemple les deux jeux vidéo là qui sont dans les tuyaux, sont vraiment là, comme je le répète, sont vraiment là pour souligner le développement transmédia de l'histoire.
Mais vous avez, je suppose que c'est un avantage aussi de faire de l'animation 3D, d'avoir déjà des personnages qui sont modélisés. Donc, il y a un dessiné traditionnel où pour le jeu vidéo on devrait remodéliser, donc vous avez déjà un pied dedans en quelque sorte.
Exactement, on a aussi une très grande chance, c'est que on a l'opportunité de travailler avec des personnes qui nous font le game design et le développement sur Unity 3D, qui est un moteur de jeu en temps réel de nos projets. Et on a la chance aussi de travailler avec des personnes qui ont pu adapter les ressources en 3D qu'on avait déjà fait pour les épisodes de la série, pouvoir les adapter donc pour le temps réel, pour le jeu vidéo en fait. Et effectivement, c'est une grande ça nous permet en termes de temps d'être beaucoup plus rapide. D'avoir déjà les personnages qui sont déjà prêts pour l'animation 3D, il n'y a plus qu'à les adapter pour la version jeu vidéo. Et justement,
c'est cross-platform.
Ouais, voilà. Oui, on peut dire oui, exactement. Cross-platform, c'est exactement ça, ouais.
Bientôt la BD, alors, ce sera peut-être la prochaine étape.
Différents supports. Non, oui, c'est vrai qu'en fait, on aimait bien l'idée de... par proposer, on va dire, différents points d'entrée dans les univers et dans les histoires qu'on propose. Donc,
ah, mais ça permet de découvrir aussi plus facilement, d'avoir une plus grosse surface de découverte de vos projets, quoi. Si vous êtes disponible sur tablette et que les gens jouent et vont découvrir la série après derrière, là ça permet.
Ouais, exactement, ouais,
complètement.
Exactement. D'ouvrir les portes.
Ouais. Exactement, complètement, c'est vraiment notre logique de pouvoir développer l'univers qu'on a apporté et de le retrouver via différents supports et même si on préfère jouer un petit jeu vidéo le soir tranquille sur sa tablette ou alors on préfère suivre à la télé un épisode chaque semaine, on a un moyen de rentrer dans l'univers et d'essayer d'apprécier le pouvoir et les personnages qu'on va voir.
Intéressant, moi j'aime bien cette logique un peu cross-média, un peu transmédia. Ça, quand les univers sont intéressants, ça permet de les développer encore plus et de découvrir d'autres pans. On suit par exemple une série, on se dit, ah ben tiens, qu'est-ce qui peut se passer peut-être en dehors pour tel personnage, on le retrouve dans le jeu vidéo. Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes à mettre en place.
Ouais, c'est vraiment complètement ça. Et après, par contre, le prérequis de base, c'est que l'univers doit être assez riche, assez dense pour qu'on puisse avoir cette logique transmédia. Je pense que le transmédia est intéressant, mais qu'on ne peut pas faire du transmédia avec tous les projets. Et justement, c'est dur de toujours avoir un contenu qui soit assez qualitatif pour le spectateur. Sur chaque média qu'on propose. Donc on parlait par exemple d'adapter les univers en BD ou en comics, c'est quelque chose qui est possible, mais vraiment pour porter les histoires, les personnages sur ces médias, ça demande de travailler, d'adapter l'univers spécialement pour ce format et de travailler en ce sens pour toujours apporter un contenu qui soit hautement qualitatif et auquel les spectateurs vont vraiment retrouver l'histoire, les personnages connaissent,
dans des situations différentes.
Ouais.
Il ne faut pas faire du transmédia pour faire du transmédia, pour dire d'avoir le jeu vidéo dérivé, d'avoir sans fond et sans histoire, mais bon, je pense que ce n'est pas non plus votre but, évidemment. Mais...
Non, bah ça ne sert à rien si on essaye de faire... Après, si on essaye de faire ce genre de choses, parce que c'est pas... Après, le contenu n'est plus de qualité, quoi. Donc ce n'est pas ce qu'on veut.
Et justement, ouais, par rapport à ça, il y a tous les projets ne sont pas n'ont pas le même axe, on va dire, de transmédia, c'est-à-dire moi pour ma part, par exemple, on avait essayé de développer un petit peu de transmédia, mais plus pour arriver trouver le moyen de mieux expliquer aux spectateurs l'univers et l'histoire. Voilà, c'était vrai, c'était sur d'autres axes après, en fonction des projets. Comme Alex le disait, le transmédia, il n'est pas de la même, sous le même angle en fait.
Voilà, exactement. Il y a besoin de s'adapter au format et d'adapter l'univers selon le média qu'on vise. Et justement, on parlait de transmédia et c'est vachement bien. On a une petite news. Il y a quelques jours, donc le projet Barababor et le mien, Cosmotouriste, on va participer en début octobre à un événement transmédia qui va se dérouler à Paris, à la Gaîté Lyrique, qui s'appelle TIU Lab, donc TIU pour Transmedia Immersive University, qui est un organisme qui se charge de présenter et d'encourager l'écriture et le développement de projets transmédia. Et on a la chance justement que cette organisation ait choisi nos projets, Barababor et Cosmotouriste, pour pendant, il me semble que c'est 3 ou 4 jours, les présenter au grand public et présenter non seulement l'histoire, mais aussi leur approche transmédia. Je peux vous donner rendez-vous donc à Paris début octobre. C'est un petit peu loin dans le temps, mais voilà, pourquoi pas. Et on sera présent donc à la Gaîté Lyrique et on va développer pendant ces quelques jours une bonne expérience transmédia auquel le public et le spectateur va pouvoir essayer directement en live.
On rappellera vos comptes de réseaux sociaux à la fin, comme ça les gens pourront vous suivre et seront tenus informés
de l'événement. Ouais. Et j'adore le commentaire, le transmédia, c'est comme la première place à l'Eurovision. pour notre part, on a un peu plus de barbe et un petit peu moins de poitrine.
On peut remercier Randall Flagg pour cette magnifique blague.
Merci Randall Flagg.
Lui et Zafeu, c'est les humoristes de la chatroom.
Ah, voilà, on voit ça.
Ouais. Très bon potentiel en tout cas.
Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin. Je sais pas si Nico, est-ce que tu as des nouvelles questions?
J'avais une dernière question en fait à poser, qui m'intéressait de savoir. C'était au sujet de leurs influences et de ce que eux aimaient en termes d'animation. Donc, comme on le disait déjà avant, on sentait beaucoup d'inspiration dans chaque projet. Pour l'un, les Simpsons ou les Griffins. Pour l'autre, les animés plus années 80. Enfin, vraiment, à chaque fois, on a cité des références. On sent d'ailleurs que c'est comme nous, des enfants des années 80, qui ont grandi avec toutes ces animations-là. Mais je voulais savoir justement quelles étaient pour eux leurs plus grandes influences et vraiment les, on va dire un coup de cœur, mais peut-être les animés qui sont pour eux les plus marquantes et qui considèrent vraiment comme cultes.
Alors, c'est une vaste question, on va prendre quelques secondes
pour réfléchir. Je dirais que déjà pour reprendre un petit peu ta question, c'est vraiment les animés les animes et puis les comics qu'on a pu voir pendant notre enfance qui nous ont assez marqué. Je sais que pour Yann, on a certains qui t'ont vraiment beaucoup marqué.
Pris de court.
Comment refiler la patrouille?
Parce qu'il y a un live tweet en fait à côté. Et du coup,
non, pas du tout.
Il est en train de dédoubler son cerveau en fait pour pouvoir.
Non, ouais. Enfin, moi, vraiment ceux que j'ai vraiment adoré, c'est les. Ça va peut-être paraître un peu bateau, mais c'est vraiment tous les Miyazaki. Mélange entre la.
Non.
La...
Pardon. C'est pas bateau. C'est pas bateau. C'est très très bon.
Ouais. Bah voilà, je pense ouais vraiment moi c'était les Miyazaki avec toute la poésie qui peuvent amener dedans et puis les différents degrés de lecture. Alors c'est pas de la 3D mais voilà, je pense que ça a été une bonne influence sur pas mal de choses.
Ouais.
Donc Alex ou Antoine?
Ouais, moi pour ma part, je sais pas trop. En fait, c'est Là où j'essaye de puiser mes références, c'est vraiment dans un tas de choses. Par exemple, ce qui m'a surtout marqué comme Adrian, c'est des trucs comme Miyazaki, mais il y a aussi il y a aussi du Pixar, il y a aussi des animations pour le film de Pink Floyd. Enfin, c'est des trucs qui sont vraiment vraiment très larges, quoi. J'ai pas quelque chose qui m'a donné véritablement un coup de cœur. Enfin, pour le coup, je pourrais dire que j'ai eu plusieurs coups de cœur. Ouais, enfin voilà, il y a vraiment un tas d'animations qui m'ont avant, quoi. Et puis même aussi bien dans le jeu vidéo, en fait, j'ai beaucoup de références de jeux vidéo. C'est une de mes principales un de mes principales hobbies, on va dire.
C'est bien. Bravo.
Voilà, enfin, je puise vraiment mes références partout où il faut, quoi.
C'est bien, on a affaire à des bons gros geeks, c'est bien.
Ouais, un peu comme ça.
Ouais. Et du coup, pour ma part, moi, c'était plus deux choses. Déjà, toute la littérature sur les voyages, sur la découverte, l'aventure, Jack Kerouac, Christopher McCandless, marqué. Et en termes de contenu plutôt audiovisuel, c'était des séries comme Les Indes d'espace, H2G2, la science-fiction, un petit peu délirante, un petit peu absurde, qui m'ont aussi bercé. En développant Cosmotouriste, les influences en termes de narration, ça a vraiment été tous les romans de voyage, les reportages photos, les documentaires qu'on peut trouver sur National Geographic, Discovery Channel. Et pour la partie visuelle, c'était plutôt des styles 3D assez classiques qu'on peut retrouver maintenant, comme Antoine a cité, dans les films Pixar, dans les dernières productions en animation 3D, mais aussi en mixant un style qui m'a beaucoup influencé, qu'on appelle assez un style assez géométrique, on appelle un style un peu low poly, à base de facettes, qui est un style qui est en train d'émerger, en fait, d'arriver. C'est un petit peu comme l'art contemporain, en fait, en 3D. C'est un style assez déstructuré, assez simple, qui va à l'essentiel. Assez séduit pour la partie visuelle de Cosmotouriste.
Clairement, quand j'ai vu les artworks de Cosmotouriste, j'ai vu Journée.
Ouais, par exemple, c'est
quand
ça.
On voit l'Égypte, pour moi, ça m'a fait penser à Journée, le jeu.
Ouais.
On sent une influence. Après, je sais pas si ça a été une de tes influences, mais ça ressemble dans le style, je trouve.
Journée, ça a été. Pour moi, c'est vraiment l'essence de la poésie, tu vois, de la poésie en termes d'univers, de narration, couplée à des ambiances et des lieux complètement magnifiques. Ça reste dans un niveau de détail qui se veut assez simple, mais dedans, tu arrives quand même à retrouver une certaine richesse. Et c'était vraiment cette sorte d'alchimie que je voulais retrouver, en fait. Effectivement, oui, journée, c'était une très très bonne. Il y a aussi un dernier jeu là, un jeu tout récent qui vient de sortir sur iPad aussi, qui est vraiment dans les influences que j'apprécie, c'est Monument Valley. Disponible sur iPad et tablette Android, qui est assez cool, quoi.
Ouais, je ne connais point.
Je ne connais pas. Non. Voilà, beaucoup de bonnes influences, donc vous savez maintenant que leur travail, c'est du bon, parce qu'ils ont des bonnes influences.
On essaye.
Vous pouvez faire savoir.
Ouais. Et donc, on rappelle, votre site, c'est Fat Fish Animation. Et du coup, une autre question, pourquoi Fat Fish?
Ah, on l'attendait aussi, cette date question. On est content que vous nous l'ayez posée. On pensait même que c'était la première que vous allez nous réserver.
Non, parce que après, je me suis dit, en regardant les vidéos, je me suis dit, glouglouton, du poisson, pourquoi pas, fat fish, ça peut-être venir de là, parce que le gros poisson, là, à la fin.
Ouais, mais c'est...
En fait, bah, surprise, ouais, ça vient de là.
Ça vient de là, ça vient de majoritairement là. On voulait essayer de faire quelque chose de... Bah voilà, on était quatre, on voulait trouver le moyen de se réunir, trouver le moyen de quelque chose de faire de... pâte. Et du coup, Fat Fish, voilà, en hommage, on va dire, à notre premier projet en commun dans Glouglouton.
Voilà, Glouglouton, un gros poisson qui se jette à l'eau. Et ben, on a essayé de se réunir, de se mettre d'être à quatre, et puis hop, on se jette à l'eau avec nos quatre projets.
Dans le grand bain, à la recherche des producteurs qui ne sont pas que des requins. Donc,
pas tout le temps.
Pas tout le temps. Les producteurs peuvent être sympas aussi.
Oui. Ouais.
Ah, vous pouvez pas dire le contraire pour l'instant.
Non,
vaut mieux être gentil hein, pour l'instant.
Okay.
Bon, bah, donc on vous retrouve sur fatfishanimation.com encore pendant 9, on va dire 8-7 jours, le temps que je monte l'épisode. 8-7 jours sur
Ulule. Ouais, on peut dire
jusqu'au vendredi 23 mai.
D'accord, donc il va falloir se dépêcher à aller baquer les projets.
Ouais,
carrément. Bon, les lunes d'Aldrin, vous pouvez arrêter, c'est bon, il est arrivé.
Je vais devoir donner aux autres après pour qu'ils puissent finir.
Ouais, d'ailleurs, c'est encore une autre question, on pourrait durer des heures. Mais en gros, si vous n'arrivez pas à l'objectif, qu'est-ce que vous faites? Vous
sois pas pessimiste.
Non, carrément.
Pas hypothéqué.
C'est quoi le fait de dire bon bah on a loupé, qu'est-ce que vous allez faire?
On a prévu, on a discuté parce que bah voilà, on en parlait au début de l'émission que justement on était conscient, on va dire, des risques qu'il peut y avoir qu'une seule campagne, voire deux qui réussissent, et du coup voilà, on va partager. Partie de la somme des campagnes réussies, on va la partager aux autres campagnes qui n'ont pas réussi. Si on se réunissait, si on faisait les choses à plusieurs, il fallait forcément que la finalité elle soit à plusieurs aussi. Donc, dès le début, on s'était mis d'accord, on était tous d'accord là-dessus. Donc voilà. On partage tout.
On a joué la carte de la solidarité et de la complémentarité à fond.
Bah écoutez, de toute façon, je pense que clairement, vous êtes au-dessus des 70%, il reste 9 jours, ça va le faire, surtout si tout le monde qui écoute fait de la retape partout et va,
et va aller contribuer un peu. Faut pas hésiter à faire tourner autour de vous, c'est vrai, on a l'impression d'être bête quand on le dit, mais la première contribution, c'est de parler des projets, et donc voilà.
Partager sur Facebook, en parler à vos amis, à votre famille. Pour nous, ça nous aide vraiment beaucoup et ça nous fait grave plaisir.
Ouais.
C'est pas avec les milliers d'auditeurs qu'on a, si au moins chacun d'entre eux en parlait à un contact.
Allez. Oui, bah oui, c'est oui, le
il suffit,
oreille,
ouais, ouais. Il suffit de la bonne personne des fois pour qu'un projet voit le jour.
Pour que ça décolle,
En tout cas, on espère que vous allez tous réussir.
Merci beaucoup.
Merci bien.
Parce que vraiment, vous le méritez. C'est vous, il y a du très très beau potentiel et c'est pour ça qu'on vous a invité hein. C'est parce que quand on est tombé dessus j'ai fait ah tiens ça va être sympa ça va être bien de parler de ça.
Ah bah cool alors,
ouais, cool,
merci, bien. Ça fait bien plaisir à entendre.
En tout cas, merci à vous, ça nous fait vraiment plaisir.
Fabien est pas là mais je pense que
il serait d'accord avec
nous.
Bon, lui il est en train de passer ses vacances là.
c'est ça.
On va conclure l'émission et on va faire un petit tour de table et vous allez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver un peu sur internet, vous perso, parce que bah, Fat Fish Animation, on vous retrouve aussi sur fatfishanimation.com et sur Twitter, sur @fatfishanime.
Ouais.
Et on doit vous retrouver aussi sur Facebook, mais tout ça c'est sur votre site Fat Fish Animation.
Ouais, c'est ça, il y a tout récapitulé dessus.
Ouais, vous pouvez retrouver chaque projet sur, on a chacun une page fan Facebook, on a un compte Twitter, une page Google+, et toutes les infos, tous les liens sont donnés sur www.fatfishanimation.com, notre super site web. Notre fat site web.
Et après, personnellement, est-ce que vous avez des comptes Twitter, des comptes Facebook, chacun?
Personnellement, oui.
Twitter.
Enfin, ouais, il y a juste moi, j'ai pas encore de compte Twitter. Enfin, Antoine, hein, pour voilà. mais j'ai, oui, j'ai. Enfin, on a tous chacun un compte.
Pour ma part, c'est Y Morio, parce que mon nom de famille c'est Morio. Voilà. M O R I A U D.
Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est @AlexSpontak.
S-P-O-N-T-A-K.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Et puis, donc Antoine, pas encore.
Non, pas encore de Twitter.
Pour bientôt.
Juste ouais. Un Facebook.
Et sinon, vous pouvez nous retrouver en visu, en face-à-face, en live, pendant le festival d'Annecy. Si vous êtes originaire d'Annecy ou si vous voulez venir nous faire un petit coucou pendant le festival, ce sera avec plaisir. C'est du 9 au 14 juin. Et pour Barababor et Cosmotouriste, on sera présent à l'événement Transmédia, à la Gaîté Lyrique, début octobre à Paris. Et c'est ouvert à tout le public. Avec grand plaisir qu'on vous accueille et à vous rencontrer.
Et puis s'il y en a quelques-uns qui seront là à Annecy,
un petit tour de pédalo et puis
voilà. Avec une bonne tartiflette.
Au début, il y en a qui disaient Annecy, c'est pour le soleil, donc voilà.
Merci, nous on se retrouve peut-être le mois prochain pour les projets du web avec Nico, on sait pas encore, avec de nouveaux invités, on a déjà des invités et on vous donnera l'info plus tard dans le mois et puis voilà, t'as quelque chose à rajouter Nico ?
Non, je crois qu'on a fait le tour, encore désolé pour cette longue absence indépendante de notre volonté mais on essaie de revenir petit à petit voilà.
Et aussi désolé pour le début qui a été un petit peu chaotique avec les sons, mais on s'en est bien sorti sur la fin. Donc on a bien joué là-dessus. Et en tout cas, merci beaucoup cette fiche animation.
Merci à vous. Ouais. Merci de votre invitation surtout.
Ouais.
Il y a pas de souci. Quand les projets nous plaisent, on invite. Hein.
Bah c'est super, ça nous fait
voilà,
plaisir.
On passera à la caisse après, on vous dira le total de celui-là.
On prépare le chéquier.
C'est bon.
Et puis on se dit à plus tard et suivez, faites fiche animation. Il y aura à suivre, surtout en octobre apparemment, et puis même allez backer surtout. Allez retrouvez-vous sur Ulule et backer les projets. Allez à la prochaine. Salut tout le monde.
Salut,
merci.